Nous avions vraiment quelque chose de ravissant ce soir. Un chercheur des plus renommés et connus, Dr. Eileen Schuller, diplômée de l'Université d'Alberta, premier cycle en études classiques, maîtrise de l'Université de Toronto pour les études du Moyen-Orient. Ensuite, elle a obtenu son doctorat à l'Université Harvard en 1984 en langue et civilisation du Moyen-Orient. Elle a enseigné à plusieurs endroits au Canada, au Collège théologique Newman, à Edmonton, Halifax, au Collège théologique, et depuis 1990, la Faculté des études religieuses à l'Université McMaster à Hamilton, où elle est actuellement doyenne de la faculté. Elle est aussi membre du comité de rédaction de Découverte de la mer morte et aussi co-rédactrice de l'Encyclopédie des manuscrits de la mer morte, définition interprétative, dictionnaire interprétatif des manuscrits de la mer morte. Elle était présidente en 1994-1995 de la Société canadienne des études bibliques. Elle a aussi travaillé sur l'équipe internationale pour la publication des manuscrits de la mer morte. Elle est fort reconnue pour 4Q80 et 4Q82, les sommes non canoniques. Et entre 90 et 99, elle a travaillé sur divers autres manuscrits de la grotte numéro 4. Ce sont des psaumes, des prières et des chants. Actuellement, elle est auteure d'un volume de prières, de chants et de psaumes provenant de Qumran qui sont publiés dans la série Les manuscrits de la mer morte, et un volume aussi sur Qu'avons-nous appris des manuscrits de la mer morte qui sera publié bientôt. Ça découle des conférences prononcées de l'Université de Victoria. Elle a un projet aussi à long terme. Elle aimerait faire une œuvre qui offre un commentaire détaillé de ses manuscrits dans la série Hermanias. Alors maintenant, avant de céder la parole au professeur Schuller, j'aimerais vous parler un petit peu de notre programme ici. Nous sommes un institut de recherche ici au musée. Nous avons beaucoup d'expertise dans plusieurs domaines d'intérêt, culture, histoire, tradition du Canada, par exemple. Cependant, on ne peut pas tout connaître sur tous les sujets. Et afin d'offrir au public la grande gamme des sujets, il est souvent nécessaire de faire appel à des savants, à des universités, à des spécialistes, partout au Canada et d'ailleurs. Dans ce cas-ci, Eileen Schuller et certains de ses étudiants, David Miller, par exemple, à Hamilton, à l'Université McMaster, on leur a demandé leurs commentaires, leurs conseils, leur avis sur la décision de faire venir cette exposition ici à Ottawa. Bien, elle était très gentille, elle nous a beaucoup aidé, elle nous a donné des conseils précieux qui a mené à cette exposition excellente et fort réussie d'ailleurs. Je veux la remercier du fond du cœur de sa grande collaboration et son bon sens d'humour. Alors, j'aimerais maintenant l'inviter à nous parler ce soir. Rolling. Rolling. Ouf! Pas trop fort sur le micro, là, s'il vous plaît. Merci énormément, Dr. Inglis, pour cette introduction, cette présentation très élogieuse. J'aimerais aussi prendre cette occasion à féliciter publiquement le Musée des civilisations ici pour cette excellente exposition, la vision, la planification, le dur travail que ceci a pris pour faire venir tout ce matériel au Canada. J'ai pris grand plaisir à travailler avec eux au cours des deux dernières années. C'était pour moi un grand privilège d'être ici ce soir. Au mois de janvier, j'ai visité le musée ici avec deux autobus pleins d'étudiants de l'Université McMaster, précisément pour venir voir cette exposition des manuscrits de mer morte. On est arrivé ici un samedi matin, il n'y avait pas tellement de foule, c'était assez calme. J'essayais de rassembler tout le monde dans le foyer principal. Et puis, il y avait d'autres personnes aussi, évidemment, qui étaient là pour l'exposition. Ils parlaient un peu fort. Je les entendais parler. Oh bon, c'est rien d'extraordinaire, qu'on était bien content de voir cette exposition, qu'il y avait une belle série de conférences. Un de les messieurs disait à son copain, il voulait venir à cette série de conférences, probablement toutes, sauf peut-être cette bizarre conférence sur les femmes. Il ne comprenait pas pourquoi qu'on avait un thème de femmes, parce qu'on savait fort bien qu'il n'y avait pas de femmes à Qumran. Bon, je me suis mordu la langue, je ne me suis pas présenté du tout à ce monsieur, mais. Mais en fait, à réfléchir un peu sur ses commentaires, sa réaction était probablement pas tellement exceptionnelle. En effet, c'est comme ça qu'on voit, qu'on comprend les manuscrits de la Mer Morte et le site archéologique de Qumran, mais présenté de cette façon. On nous dit que ce que nous avions ici est un petit groupe ésotérique, un peu bizarre, un peu marginal, à la périphérie du judaïsme normatif. Des hommes qui ont fui la ville pour le grand désert, qui ont adopté quelques idées bizarres, quelques pratiques peu orthodoxes. Ils ont mis toutes leurs propriétés en commun, ils vivaient de façon communautaire et ils ne se mariaient pas. En effet, c'était des hommes célibats, ascétiques. Cette conceptualisation sous-jacente qui sous-tend notre compréhension des manuscrits de la Mer Morte remonte à leur découverte. Le 12 avril 1948, lorsque l'École américaine de recherche orientale a publié la première communiqué de presse sur cette découverte étonnante de manuscrits hébraïques anciens, ils ont noté qu'un de ces manuscrits, et ici on parlait de règles de la communauté, la règle communautaire qui était exposée ici, était, je cite, un manuel de discipline d'une secte peu connue, peut-être monastique, possiblement essénien. Et en dedans d'un an de leur découverte, les auteurs des manuscrits ont été liés, étaient identifiés avec les Esséniens, un des trois groupes ou les trois sectes qui a pris une certaine préscience dans le premier siècle du judaïsme. Les pharisiens, les sadducéens étaient les autres. Alors, on trouve une description dans trois sources, trois apports seulement. On a le Romain Pliny, le philosophe juif Philo, qui demeurait à Alexandrie, jamais rencontré un Essénien de sa vie, et Josephus Flavius, qui avait goûté un peu aux trois sectes avant de se décider de se joindre aux pharisiens. Et tous les trois auteurs nous disaient qu'est-ce qu'il y avait de spécial de ce groupe de juifs, c'est qu'ils ne se mariaient pas. Pliny le Vieux les décrivait comme de cette façon. Ils vivaient ouest de la mer Morte, un peuple unique dans son genre, sans femme, sans argent, renonçant entièrement à l'amour, seuls les palmiers pour les accompagner. C'est joli, hein? Philo d'Alexandrie disait catégoriquement, aucun Essénien prend une épouse. Josephus Flavius parle en grand détail des Esséniens qui dédaignent le mariage pour eux. Ils sont constamment en garde contre la lubricité des femmes et sont convaincus qu'aucune femme est fidèle à un homme seul. Et il continue dans cette veine pour un bout de temps, Josephus, c'est-à-dire. Tout à coup, il nous propose un autre ordre d'Esséniens qui vivent comme les autres dans leurs moyens de vie, les usages et les coutumes, mais qu'ils se marient pour enfin assurer la propagation de la race humaine. Bien, c'est cet aspect des Esséniens, des hommes, des célibataires, sans femmes, qui semble être confirmé lorsque les manuscrits que le Bédouin, a trouvés, les manuscrits du grotte numéro 1. Règles de la communauté décrit une façon de vivre, des rituels d'initiation, un système de gouvernance, un code pénal. Ça couvre tous les aspects de la vie, sans aucune mention de mariage, de famille, de rapport sexuel. Enfin, il n'y a aucun vocabulaire relatant aux femmes ou la procréation, sauf évidemment pour les tournures de phrases bibliques, homme né de femme ou fils de votre servante. Dans les autres manuscrits qui sont en exposition ici de grotte numéro 1, le rouleau de la guerre, c'est un plan de bataille détaillé pour les fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Les femmes sont mentionnées une seule fois, et là aussi par exclusion. Je cite, « Aucun jeune garçon ou aucune femme peut entrer les camps lorsqu'il quitte Jérusalem pour aller en guerre. » Et dans les années 1950, lorsque les archéologues ont porté leurs attentions sur les manuscrits qu'on a trouvés dans les grottes pas loin de Qumran, les artefacts qu'ils ont découverts étaient en effet des grands bâtiments communautaires, une cuisine commune, un réfectoire, aucune unité familiale. Et lorsqu'on a excavé le cimetière qui est pas loin, qui est adjacent du site, les résultats étaient constants. Père Deveau, l'archéologue français responsable pour leur excavation, a dit « Tous les squelettes dans cette partie du cimetière, qui est très bien ordonnée, le soi-disant cimetière principal, sont mâles. » Mais enfin, il avoue aussi que certains des tombes contenaient des femmes et des enfants, ou les restes d'enfants et des femmes, sur les périphéries de ce cimetière principal. Alors, on ne sait jamais quoi en faire, selon Deveau. On ne sait pas comment celle-ci s'intègre au paradigme d'une communauté célibat. Est-ce que c'était la mère de quelqu'un qui est venu en visite et en est mort? Est-ce que c'était la domestique? Ou peut-être un touriste qui s'est égaré des sentiers battus? On n'en sait rien. Mais on y reviendra un petit peu à la fin de ma présentation et je vais essayer de vous proposer une interprétation quelconque. Alors, dans les années 1950 et 1960, et même dans les années 70 et 80, les femmes étaient en effet absentes du monde des manuscrits de mer morte. N'importe quelle autre merveille et connaissance et savoir qu'on peut extraire de ce trésor. Ce n'était pas un apport tellement important sur lequel on pourrait apprendre grand-chose sur les femmes pendant la période du judaïsme du Second Temple. Mais depuis une quinzaine d'années, la situation a changé. Tranquillement, mais de façon fondamentale. De plus en plus de manuscrits ont été publiés, il y en a au-delà de 900 maintenant publiés. Et grand nombre de celles-ci, vont mentionner les femmes d'une façon indirecte. Soit on mentionne les femmes explicitement, ou on traite de sujets tels que le mariage, l'accouchement, la menstruation, ou les règlements qui concernent les rapports sexuels entre hommes et femmes. Mais étant donné la façon dont on a publié les divers rouleaux et manuscrits individuels, au cours de plusieurs années, on ne s'est pas rendu compte jusqu'à la toute fin à quel point qu'on avait beaucoup de matériel qui parlait de femmes. Et il n'y a que depuis 10 ans que les manuscrits et la femme est devenue une question d'intérêt. Je peux vous citer un petit exemple assez drôle. En 92, lors d'une conférence annuelle de la Société des études bibliques du Canada, on avait proposé un groupe de discussion. plusieurs personnes, on leur a demandé de présenter un topo d'une demi-heure. Une demi-heure pour tout le monde, chaque personne. Sur les femmes dans le monde ancien. Femmes et la culdicis, les femmes dans l'ecclésia chrétien de Corinthe ou dans les écoles philosophiques grecques. Le président de séance me demandait si je pourrais présenter une conférence sur les femmes et les manuscrits de la mer morte. Et il a rigolé, il dit que je pourrais faire ce que je voulais avec les 20 minutes qui me resteraient. 10 ans plus tard, en 2002, l'énorme congrès de la Société de littérature biblique, on m'a demandé de préparer une réponse à une série de 5 conférences qui ont été présentées au cours d'une séance plénière de 3 heures, présentées par des éminents savants de Qumran, tous des hommes d'ailleurs, sur les femmes et Qumran. Ces documents seront publiés bientôt dans un périodique qui s'appelle Découverte de Mer Morte. Ceci reflète, je pense, la réalité que c'est devenu une question de fort intérêt pour tous ceux qui se spécialisent dans l'étude des manuscrits de Mer Morte, non seulement quelques poignées de féministes enragées. Je veux souligner quand même quelques petits points assez importants là. Et je vais vous présenter une examination un petit peu plus précise de la chose. Premièrement, malgré que tous les manuscrits, ou presque tous, il reste un volume encore à publier, je pense, mais presque tous les manuscrits maintenant ont été publiés, traduits, ils sont disponibles, ils sont informatisés, disponibles sur CD-ROM. Mais ceci représente une toute première étape d'étude. Il reste encore énormément de travail à faire. Il faut s'attaquer à des textes individuels, surtout ceux qui sont très complexes ou très fragmentaires. Un de mes étudiants vient de terminer une thèse doctorale. Elle a pris un texte comme sujet qui examinait le rôle des femmes. Et c'est ce qu'on veut dire. Il faut examiner ligne par ligne, mot par mot, les fragments. Et au-delà des détails techniques, nous essayons toujours de déchiffrer. Quelles questions poser? Quelles questions? Faut poser les bonnes questions afin d'extraire le maximum d'informations possibles à propos des femmes, de ces textes qui ne parlent pas nécessairement de femmes telles quelles. Et il y a de véritables limitations à ce que nous pouvions apprendre d'ailleurs. Et je vous avertis dès le début. Les manuscrits nous ne disent pas tout ce qu'on aimerait savoir sur les femmes dans cette communauté ou sur les femmes et leur rôle au sein du judaïsme. Mais il y a plus d'informations qu'on avait prévues quand même. Les apports à notre portée sont encore très limités, très mal conservés, et c'est très frustrant parce qu'ils sont tellement incomplets. Par exemple, il n'y a aucun passage qui cite explicitement une discussion ou qui établit, qui étale ce que les auteurs pensaient des femmes et le rôle des femmes au sein de la famille, la communauté ou la société. Nous n'avons pas de déclaration de base sur la nature des femmes telle que chez Philo, le philosophe. Les femmes sont égoïstes, jalouses, séduisantes et arrogantes. Ben, on n'est peut-être pas d'accord avec ce genre d'énoncé, mais au moins c'est un point de départ pour un bon débat. Dans les manuscrits, on trouve une femme. Je parle évidemment ici des manuscrits non bibliques, parce que dans les manuscrits bibliques, il y en a plusieurs femmes. Mais dans les non bibliques, il y a une seule femme qui est mentionnée, pardon, c'est la reine Shelham Zion. Autrement dit, c'est la reine Salomé du peuple Hasmonéen, le 1er siècle avant notre ère. Son nom apparaît dans un genre de fragment de calendrier des jours fériés. C'est tellement fragmentaire que nous ne savons même pas si le jour qui lui est accordé est une occasion joyeuse ou une occasion de deuil. Il n'y a qu'un seul texte, à ma connaissance, où une femme est adressée directement. Et c'est un genre de petite citation, un petit peu comme les proverbes, où ce qu'on offre, on prodigue des conseils à une femme qui n'est pas nommée, anonyme. On lui donne évidemment des commentaires assez banalisés dans un sens sur ses rapports avec son mari et son beau-père. Et ensuite, il y a une petite poignée de textes, une douzaine maximum, où c'est peut-être une femme qui est la préopinante. Ici, nous avions un petit fragment, ici, 4Q502, sur du papyrus. On ne sait vraiment pas qu'est-ce que c'est au juste. C'est une cérémonie, c'est un rite quelconque, célébratoire, joyeux, où les femmes participent. On parle de sœurs, d'aînées, femmes, de vierges, de jeunes filles. Dans ce petit fragment de ce texte, une femme est au sein du conseil des vieux et des vieilles. Elle prononce une bénédiction. L'éditeur de ce texte, M. Baillet, pensait que c'était peut-être une cérémonie nuptiale. L'autre pensait que c'était peut-être un festival de fin d'année ou de nouvelle année. En tout cas, ce document, le 4 Qumran 502, est composé de 344 fragments de papyrus. Bon, écoutez, je sais que mes étudiants se fatiguent un peu de m'entendre dire « on ne le sait pas, il faut l'étudier davantage, il faut se pencher dessus de plus. » Mais c'est la réalité lorsque nous traitons avec ces manuscrits. Alors, avec le peu de temps qui m'est accordé ce soir, j'aimerais lire avec vous quelques textes précis. On va parler de texte, premièrement. On va s'ancrer dans la matière. Et ensuite, je vais revenir à cette question du cimetière et des restants archéologiques. Alors, quels sont les textes importants ici pour nous ce soir? Évidemment, on ne peut pas passer en revue chaque passage. Non, je vous promets de ne pas faire ça dans une demi-heure. Mais il y a quand même un certain noyau de textes clés. Par genre de texte, la plupart de celles-ci sont des textes réglementaires, des textes légaux, juridiques. On a un long document qui s'appelle les règles de la vie, règles de la communauté, règles de l'assemblée, etc., ce genre de choses. Et ensuite, on a, dans un deuxième temps, des règlements différents. Où ce qu'on interprète la loi de Moïse, la Mishra, on parle de femmes, le 4QMMT, c'est plutôt. Ça parle des règlements qui touchent le mariage des femmes, les règlements sur la pureté. Il y a un genre de collection de lois diverses qui s'appelle de façon tout à fait peu utile, ordonnance. On parle aussi d'accouchement et d'autres choses qui sont évidemment féminins. Bon, comme j'ai noté plus tôt, le manuscrit Règles de la communauté est compris comme étant les règles régissant le groupe d'hommes célibataires, le yahad, comme on les appelle, qui vivaient probablement au site de Qumran. On ne mentionne pas du tout les femmes dans ce texte, ni les enfants d'ailleurs. En comparaison, mais aussi, il y a aussi un autre document, un document de Damas, un autre manuscrit, un rouleau assez long, qui prescrit des règlements pour ce qu'on appelle les camps. Les camps, c'était des communautés qui étaient parsemées un peu sur les terres, vivant en proximité à des non-juifs, avec des relations avec ces non-juifs, commerciales pour la plupart. Et il y a quand même des relations aussi entre ces camps et la communauté, le Yahad à Qumran. Car on a trouvé multiples copies du document de Damas dans les grottes de Qumran. Compliquant encore les affaires, il y a aussi la règle de l'assemblée. Copié immédiatement suite à la règle de la communauté sur le manuscrit qui est ici exposé au musée. Et ça commence. Voici la règle pour toutes les assemblées d'Israël dans les derniers jours. Et ça continue, ça parle de femmes, d'enfants, les âges pour le mariage. Et en grand détail, ça continue comme ça. Certains spécialistes estiment que ceci était peut-être un des premiers guides de ce genre lorsque le mouvement de ce secte rigoureux commençait. Autres universitaires et savants estiment que, à titre de, ça représente les règlements pour tout Israélite, pour la fin des jours. Alors, ce n'est pas ici pour un regroupement de mâles célibats, mais tout Israélite, hommes, femmes, enfants, qui se retrouveront à la fin des jours pour vivre et entendre la loi de Moïse. Une des questions les plus complexes posées par les manuscrits aujourd'hui, c'est le rapport exact et précis entre toutes ces diverses versions de règles aux uns les autres, et aussi à toute cette autre collection de petits textes de caractère juridique et légal. Écoutez, je ne prétends pas avoir une solution ou même une réponse partielle. Mais on voit ici que tout cela, pris dans son ensemble, représente un mouvement, une mouvance, une tendance sociale beaucoup plus vaste que tout simplement ce qui se passait à Qumran. C'était peut-être précurseur, un groupe d'élite, ou c'était peut-être une école où ce que on faisait des retraites fermées pour former une classe particulière. Ni Josephus ni Philo mentionnent Qumran ou le désert, mais surtout les Esséniens qui vivaient dans tous les villes et villages. Alors je proposerais qu'ils vivaient dans tous les villes et villages, pour la plupart, ils étaient mariés. C'est pour ça qu'il n'y a aucune mention explicite du célibat dans aucun des textes, aucune tentative de justifier l'abandon de la directive de Dieu de Genèse d'être fructueux et de multiplier. S'il y avait un petit groupe qui ne se mariait pas, et probablement il y avait un tel groupe, un tel secte, le célibat était probablement adopté afin d'atteindre un niveau de pureté supérieur. Ou d'être en état de préparation, comme guerrier, pour cette finale bataille eschatologique. N'oublions pas que dans la Bible hébraïque, toute activité sexuelle est interdite en temps de guerre sainte. Alors, si les règles sont prises dans leurs ensembles, et si on veut essayer de les interrelier, les assortir, après tout, ils ont été trouvés dans les mêmes grottes. Ben, il est important de voir aussi que la règle des communautés ne mentionne pas les femmes explicitement, mais non plus le sabbat ou l'observance du sabbat. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne respectait pas le sabbat pour autant. Ben, surtout chez les Juifs, vous savez fort bien qu'il y a toutes sortes de comportements particuliers pour le sabbat. Bon, en tout cas, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est de lire avec vous quelques passages clés. J'aimerais vous faire ça afin que vous pouviez avoir un sens du genre de texte que nous avions et les difficultés d'interprétation. On pourrait avoir peut-être un peu plus de temps ce soir sur un texte seulement, ou même un trimestre. J'aimerais quand même vous donner un avant-goût de ce genre de texte ici. On va commencer avec un passage qui est très litigieux dans l'introduction au document de Damas. Ici, les auteurs se définissent et leur groupe en comparaison avec leurs opposants, autres juifs qui ne respectent pas la loi Mishnaïque de Moïse correctement, mais qu'ils sont pris dans les trois filets de Bélial. Bélial, évidemment, c'est le diable, c'est Satan. Et la façon dont ces trois filets de Bélial piègent tout le monde est très complexe, mais ce n'est pas clair du tout. Ce qui est intéressant, c'est que tout cela tourne sur la question de savoir qui peut marier qui. Quels mariages sont permis, oncle, nièce, par exemple. Ou les questions de divorce ou de remariage ou de rapport sexuel par rapport à la menstruation. Toutes ces questions touchent les femmes et c'était au cœur de la définition même de la communauté vis-à-vis le reste du judaïsme qu'on accusait d'avoir suivi des pratiques corrompues. Prenons le premier exemple. On appelle ça les bâtisseurs du mur, qui ont été pris en fornication. Ils avaient pris deux femmes dans leur vie, dans leur vivant, dois-je dire. Alors ça, c'est les méchants, ça, c'est ceux qui sont dans le camp de Bélial, les bâtisseurs du mur, qu'ils prennent deux femmes dans leur vivant, dans leur vie, par opposition à cette communauté qui ne fait pas ça. Mais on peut interpréter cette phrase de façon différente. Soyons généreux, premièrement. C'est peut-être une interdiction contre la polygamie. Prendre deux femmes en même temps, quoi. D'avoir deux femmes en même temps. Mais d'avoir deux femmes n'était pas, en effet, une pratique courante à cette époque, et peut-être, sauf chez les élites, les aristocrates. Mais ce n'était pas vraiment un point contentieux. Souvent, on interprète ceci par le prisme du divorce, ou plus particulièrement un remariage après un divorce, qui, selon ce secte, serait d'avoir deux femmes. Alors, pour cette communauté, par contraste aux pharisiens ou les cultes rabbiniques, interdisaient le divorce. Mais ce n'est pas aussi simple que cela, d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres passages dans le document de Damas qui semblent permettre le divorce, au moins selon les circonstances, et avec le consentement de le surintendant de la communauté. L'interprétation la plus stricte, peut-être, dirait qu'un homme est interdit de se remarier, même après la mort d'une épouse. Littéralement, un homme ne peut pas avoir deux femmes pendant une vie, littéralement. Lesquelles de ces trois interprétations, alors, peut-on adopter? Polygamie, remariage après un divorce ou remariage tout court? Tout cela, évidemment, n'est pas résolu. C'est un point litigieux, contentieux auprès des savants et des experts, même aujourd'hui. Malgré toute cette incertitude, on peut quand même en tirer beaucoup de ce passage. Premièrement, il est très clair que le contentieux, c'est le divorce, le mariage, qui ont été disputés à l'époque du Second Temple. Bon, ceux pris dans les filets de Bélial, ça c'est une chose, ils font une chose, et ce groupe interprète la loi de Moïse d'une façon tout à fait différente. Et on fait appel à des textes bibliques. La création, hommes et femmes, il les a créés deux par deux, ils ont pris l'arche de Noé. Et vous pensez peut-être déjà au Nouveau Testament, là, où les pharisiens s'approchent à Jésus et lui demandent, est-ce que le divorce est permis pour aucune cause? Avant la découverte des manuscrits de la mer morte, on pensait que peut-être ceci était une question piège qu'on posait à Jésus. Deutéronome, par exemple, prend pour acquis que le divorce est permis dans certaines circonstances, et divers groupes de pharisiens, ceux de Hillel et Shammai, discutaient longuement les causes du divorce, quels étaient les motifs acceptables. Alors, pourquoi pas demander à Jésus, est-ce que c'est légitime pour cet homme de divorcer cette femme? C'était une question chaudement discutée à l'époque. Et ici, la position de Jésus sur le divorce rapprochait beaucoup plus la pensée du groupe à Qumran que celle des pharisiens. Mais notez dans toute cette discussion, et c'est très typique de la façon qu'on approche ce passage, la question qu'on ne pose pas est la suivante. Quelles étaient les répercussions sur les femmes dans cette communauté d'une interprétation de cette loi? N'importe quelle était l'interprétation. Notez que la loi même est formulée d'une perspective de l'homme qui prenait deux femmes, ou interdit d'en prendre deux. S'il y avait un code très strict sur le divorce, est-ce que cette rigueur était interprété comme étant sécurisant pour la femme? On ne pouvait pas tout simplement la planquer, la plaquer? Ou est-ce que c'était une condamnation à ce que nous appellerons une situation abusive aujourd'hui? Si le remariage après le divorce était interdit, est-ce que ceci créerait une catégorie de Femmes seules? Est-ce qu'ils avaient leur place dans le système familial, dans la société? Quel était le statut accordé aux femmes par la société? L'érudit allemand Stegemann a proposé quelque chose d'assez intéressant. Le fait que Josephus a pu présenter les Essiennes comme étant célibataires, c'est que peut-être si une femme mourait en accouchant et l'homme ne pouvait pas se remarier, c'était interdit. Bon nombre de la communauté seraient de fait des hommes sans femme. Et ici, je saute un petit peu au-delà du texte pour essayer de reconstituer une réalité sociale. Je suppose qu'on parle ici d'hommes et de femmes qui vivaient dans le vrai monde et qui seraient touchés par cette loi. C'était pas tout simplement une formulation théorique et utopique. Il y a un deuxième groupe de textes ici que j'aimerais bien examiner. On sait fort bien qu'il y a des textes qui sont quasi-juridiques ou réglementaires. Et il y a aussi des questions qui leur sont difficiles parfois à poser. Bon. Pour ce deuxième groupe maintenant de textes, on va voir ceci d'un angle un peu différent. Ici, tous ces textes discutent de rapports sexuels à l'intérieur du mariage. Il était tout à fait clair qu'il n'y avait aucune condamnation, aucune interdiction d'activité sexuelle au sein du mariage. Aucune suggestion que le sexe et la sexualité était mal ou que la sexualité féminine posait un problème quelconque. Il y a évidemment une préoccupation pour la pureté, surtout par rapport aux effluvia corporelles, mais ceci s'attache aussi aux hommes comme aux femmes. On note clairement qu'à maintes reprises, lorsqu'on interprétait la loi biblique de façon sectaire, pharisiens, rabbins, sadducéens, esséniens, de façon différente, les Esséniens étaient toujours plus stricts. Je vais vous donner quelques exemples ici. Dans le document de Damas, il y a un endroit où ce qu'il y a une interdiction. Le rapport sexuel est interdit à Dem Emidash, la ville de sanctuaire ou le lieu sacré. On parle peut-être de Jérusalem, on parle peut-être du quartier du mont du Temple, mais c'est un endroit sacré quelconque. Alors, c'est le caractère sacro-saint du lieu et qui interdit l'acte sexuel. Un peu plus tard dans le document de Damas, il y a aussi, on trouve une longue liste, un catalogue, un inventaire ou répertoire presque de transgresseurs, celui qui commet tel et tel péché. Et parmi ces transgresseurs, est celui qui approche sa femme, une fois de plus, c'est toujours le mâle au centre de la chose, le jour de, et là, le fragment manque un bout. Juste au moment où ce qu'on veut pas, il manque un mot. Joseph Baumgarten, éditeur du document de Damas, propose que c'était Yochom Shabbat, autrement dit, le jour du Shabbat. Autrement dit, l'activité sexuelle était interdite le jour du Shabbat, tandis que dans la tradition rabbinique, on encourage le plaisir sexuel le Shabbat. Quelques lignes plus tard, il semble avoir une condamnation de l'acte sexuel pendant une grossesse, parce que ceci peut stimuler le sang. Alors, stimuler le sang, c'est là où ce que c'est problématique est ambigu. Est-ce que ceci veut faire renvoi à la pureté, pure et simple, ou est-ce que c'est par souci d'endommager le fœtus ou quoi au juste? Mais Josephus nous dit que les Esséniens n'ont pas de rapport sexuel avec leurs épouses pendant la grossesse. Il y a aussi un code pénal qui offre certaines sanctions pour certains délits. Dans un cas, on a l'homme qui approche à sa femme pour un comportement immoral. Immoral. La nature précise du délit n'est pas claire, Mais c'est un comportement sexuel quelconque entre un homme et sa femme, et c'est suffisamment sérieux que ça mérite la peine la plus sévère de l'époque, l'expulsion, l'exil de la communauté. Peut-être toutes ces limitations sur l'activité sexuelle sont peut-être reliées à ce que nous disait Josephus. Ceux qui se marient ne marient pas pour la gratification sexuelle, mais pour propager la race humaine. Qu'est-ce que ça représente alors pour les femmes? Surtout les femmes qui n'étaient pas fécondes, surtout. Là-dessus, on n'a aucune information. Maintenant, le troisième regroupement de textes que j'ai choisi à discuter avec vous. C'est un texte un petit peu plus long. On a un peu plus de matériel textuel ici. Ça vient une fois de plus du document de Damas. Et on parle ici du choix de partenaire pour un mariage. Une fois de plus, les règlements sont formulés de la perspective d'un père de famille qui a la responsabilité de choisir un mari pour sa fille. Mais dans un autre texte, quand même, c'est très intéressant de noter que le surintendant de la communauté a aussi son mot à dire dans cette sélection. En effet, ça restreint un petit peu l'autorité du père de famille. Mais c'est toujours les femmes et les hommes dans cette communauté qui rendent leur autonomie à l'autorité de la communauté de façon collective. Au sujet du mariage, dans un contexte de loi, tout un ensemble de lois qui portaient sur le fraude commerciale. Alors, ça vous dit déjà quelque chose sur la valeur du mariage à cette époque. Le père, alors, doit divulguer tous les failles et torts de sa fille. Sinon, il sera puni. Bon, on ne parle pas du tout, du tout, du tout des failles du jeune marié, l'homme. Mais on ajoute aussi une petite phrase, il n'accordera pas sa fille à lui qui ne la mérite pas. Bon, c'est une expression assez bizarre et on la trouve nulle part ailleurs. Qui ne la mérite pas. C'est bizarre ça, ça se trouve nulle part ailleurs. Nos chers loka kraniha. Alors, le mari doit la mériter. Légalement, évidemment, elle doit être en mesure de la marier aussi. C'est pas une question utopique, romantique, idéale d'un homme, un homme semblable, pas du tout. On trouve aussi dans le livre de Tobit doit marier une femme qui était réservée pour lui avant même que le monde soit créé. Bon, c'est peut-être un peu sentimental, hein? C'est un peu trop romantique. Mais en tout cas, voilà, continuons, continuons. Un homme ne doit pas marier une femme ou apporter, c'est-à-dire introduire la femme dans cette assemblée sacrée qui avait été active sexuellement avant le mariage, soit comme jeune fille dans la maison de son père ou comme veuve après la mort de son mari. Toute femme qui avait une mauvaise réputation, de mauvais nom, comme on trouve l'expression, devrait être examinée, interpellée avant le mariage par une femme fiable et réputée. Yada haute. Et ces femmes fiables, devraient être sélectionnées ou choisies par le surintendant de la communauté. Ceci est une réinterprétation, je pense, d'une loi qu'on trouve dans Deutéronome 22, où la question était le mari qui accuse sa nouvelle épouse le jour des noces que sa femme n'était pas vierge. Et si ça s'avère vrai, selon Deutéronome, la femme est mise à mort. L'interprétation de la loi aussi, ici, l'interprétation interdit cette possibilité. Ainsi, ça protège la femme. Pour nos fins, ici, on suppose qu'il y a des femmes dans la communauté qui ont l'expertise, qui ont la sagesse, les capacités d'établir, de constater le fait ou non de la virginité, et qui sont acceptées par la communauté comme étant fiables. Fiable, crédible, c'est la même terminologie qu'on utilise pour décrire un homme qui témoigne devant une cour de justice. Qui me mène à mon dernier point, parce que le temps s'écoule. J'aimerais soulever aussi la question du rôle et du statut des femmes dans cette communauté. Que les femmes étaient présentes dans cette communauté est tout à fait évident, tous les passages que je viens de vous citer. Mais est-ce qu'ils étaient pleinement partie prise dans cette communauté? Est-ce qu'ils avaient le droit de se joindre de façon autonome à ce secte? Est-ce qu'ils subissaient les mêmes rites d'initiation? Ou est-ce qu'ils étaient tout simplement par alliance ou par naissance membres de la communauté? Mais mes étudiants me demandent toujours, est-ce qu'ils étaient les égales aux hommes? Égaux aux hommes. L'égalité, la parité, évidemment, c'est une notion du 21e siècle, mais en tout cas. Mais il y a des passages assez intéressants ici qui nous donnent quelques petits indicatifs que les femmes étaient acceptées de façon sérieuse, qu'il y avait quand même un rôle de substance. Voici un premier texte. On a déjà vu ce passage où les femmes sont reconnues comme étant savantes et fiables dans certaines, pour certaines questions. Ici, la règle de l'Assemblée, dans la règle de l'Assemblée, on parle de femmes qui ont été qu'on accepte ou qui est acceptable à porter témoin. Évidemment, c'est une expression technique dans le langage original qui veut dire comparaître devant un tribunal, concernant évidemment son mari et dans le contexte de pratiques sexuelles au sein du mariage. Lorsque ce passage a été lu pour la première fois dans les années 50, les chercheurs étaient tellement étonnés par une déclaration qu'une femme pourrait témoigner devant un cours qu'ils ont tout simplement corrigé le texte. Il n'y a pas de fragment, il n'y a pas de rupture dans le texte, mais on était tellement convaincus que c'était fautif qu'on l'a corrigé. Même certaines traductions anglaises donnent non elle, il sera accepté comme témoin ou appelé à témoigner. Bon. Même Joseph Baumgarten, qui était l'éditeur original, et c'est lui qui avait corrigé, a publiquement fait des aveux et a retiré cette opinion. Il laisse le texte tel quel. C'est féminin. Dans cette communauté, une femme, dans certaines circonstances, pourrait être appelée à porter témoignage, et ce témoignage serait accepté comme légitime. Pas sur tout, mais dans un contexte du mariage, par exemple. Un deuxième exemple textuel, très intéressant d'ailleurs, et ça remonte à ce code pénal. Quiconque parle contre le père sera expulsé de l'assemblée à jamais revenir. Et s'il parle contre les mères, il fera pénitence pendant 10 jours, car les mères n'ont pas, et on a un mot ici qu'on ne comprend pas, c'est Rukmah, auprès de l'assemblée. Alors, on a ce parallèle, mère, père, chacun a un rôle dans la communauté, assez semblable, assez parallèle, mais il y a une distinction très nette et claire dans les sanctions. Expulsion pour ceux qui parlent contre le père ou les pères, et une pénalité de 10 jours de pénitence, probablement peut-être un demi-jeûne ou quelque chose du genre pour ceux qui parlent contre les mères. Et malheureusement, on a cette phrase avec ce mot qu'on ne comprend vraiment pas. Le rukma ou le rokma, habituellement, ça veut dire un genre d'étoffe colorée, mais c'est peut-être, ça veut peut-être dire autorité, c'est peut-être un symbole d'autorité aussi. Alors, la pénalité pour un délit contre les femmes est moindre, mais il y a quand même une pénalité qui veut dire qu'ils avaient un certain niveau d'autorité aussi. Bon, nous examinions maintenant toute une série de textes. On pourrait continuer pendant des heures et des heures, mais ce serait du pareil au même, je pense. Dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais revenir maintenant aux preuves concrètes du site archéologique de Qumran et voir si on peut peut-être extirper d'autres informations, surtout sur les femmes. Vous allez noter ici que maintenant, je mets de côté les textes et je parle du site à Qumran. Et que Qumran, pas les camps, pas les communautés en périphérie, mais Qumran. Comme j'ai dit plus tôt, lorsqu'on a excavé ces ruines dans les années 50, la taille des bâtiments communautaires, le réfectoire, la cuisine, l'absence de demeure individuelle, on voyait que c'était un lieu d'assemblée. C'était communautaire, clairement communautaire. Mais n'a-t-il pas d'autres preuves archéologiques ici qu'on peut peut-être trouver? Les petits objets, les artefacts qui sont habituellement associés aux femmes. Lorsqu'on cherche la présence des femmes, on cherche des perles, des boucles d'oreilles, des miroirs, des bijoux, des dés de couture. Un métier. C'est peut-être l'archéologie fondée sur les sexes. On cherche ce genre d'objets, d'artefacts. Ces petits artefacts qu'on a excavés dans les années 50 n'ont pas encore été publiés. L'inventaire ou le répertoire. Alors les questions sont encore sans réponse. De même est vrai pour le cimetière. J'ai parlé du cimetière tantôt, qui a environ 1200 tombes. La pratique normale à cette époque, Second Temple judaïque, c'était le tombeau familial. Et ensuite, dans un deuxième temps, on repère les os et on met ça dans un ossuaire. Mais à Qumran, les corps étaient enterrés directement dans la terre, dans des tombes individuelles, avec une orientation nord-sud. Enfin, lorsque le Nouveau Monde arrive, évidemment, on va faire face au nord où est le paradis. Les squelettes ont été trouvés dans 43 tombes individuelles dans les années 50. Ensuite, on les a perdus, littéralement. Ils ont disparu. Depuis 50 ans, on ne sait pas où étaient ces squelettes, ces restes mortuaires. On les a trouvés depuis 5 ans. Seulement 22 dans un musée en Allemagne, 9 à Paris, 8 à Jérusalem. Et on les a mis une fois de plus sous la loupe pour les étudier davantage. Et ce qui est devenu très très clair, c'est que certains de ces squelettes qu'on avait trouvés en périphérie, hein, rappelez-vous qu'il y avait des femmes et des enfants en périphérie, ne sont pas des squelettes des anciens temps. C'est des squelettes tout à fait modernes de Bédouins. Alors c'est complètement sans pertinence pour les études archéologiques. Et peut-être dans le cimetière, ça dépend de la façon qu'on veut évaluer la chose, là, mais disons, il y a eu 4 ou 5 ou 6 femelles sur une cinquantaine plus d'enterrements. Alors, c'est une communauté assez exceptionnelle, unique, où ce qu'il y avait une proportion très faible de femmes, mais la part des tombeaux qu'on a excavés est très faible aussi. Ça représente 4% du 1000, 1200 tombes qui sont là. Ça n'a pas de validité statistique, enfin. Et jusqu'au temps qu'on peut excaver un nombre beaucoup plus important de ces tombes et qu'on peut examiner le contenu, etc., cette notion du cimetière ne peut vraiment pas nous apporter d'informations ou de preuves adéquates ou pertinentes ou en effet prépondérants dans un sens ou l'autre. Maintenant, à guise de conclusion, je n'ai pas vraiment de conclusion dramatique pour vous. Mais en effet, c'est exactement où ce qu'on en est avec nos études des manuscrits de la Mermotte et les femmes actuellement. C'est une étude, un projet évolutif. J'espère que j'ai pu vous convaincre que oui, les manuscrits ont beaucoup à nous dire sur les femmes. Rarement, on n'entend pas la voix directement, la voix des femmes. Ce sont des textes androcentriques qui ont une perspective tout à fait masculine. Ce qui a été préservé est souvent très fragmentaire, très abîmé, très endommagé, et beaucoup a été perdu. Mais étant donné le très petit peu que nous savons sur les femmes en Antiquité, à l'époque du judaïsme ou du christianisme primitif, la lumière que nous peut nous porter ce groupe sectaire peut illuminer notre compréhension de l'ensemble, comme apport d'informations sur les femmes, comme sur autres éléments de la vie antenne. Les manuscrits de la Mer Morte ont déjà fait leur preuve. Elles sont en effet une découverte incroyable et très précieuse. Merci beaucoup. Merci énormément, professeur Schuller. On a le temps de une ou deux petites questions, s'il y en a du parquet. Alors, gênez-vous pas, allez-y. L'interprète regrette que sans micro, malheureusement, on ne peut pas vous interpréter la question, mais on fera de notre mieux pour la réponse. Je m'intéresse beaucoup à ce sujet. Et j'aimerais savoir si vous pouviez nous référer à un livre quelconque qui nous donne l'éventail de ce qui a été découvert là, ou un genre d'encyclopédie quelconque, comme vous avez peut-être mentionné plus tôt. C'est une excellente question, monsieur. Beaucoup de ce matériel a été publié dans des articles séparés ou dans des journaux techniques, archéologiques et autres. L'encyclopédie du judaïsme, il y en a plusieurs malheureusement, mais l'encyclopédie du judaïsme a un article sur les femmes. En effet, excusez-moi là, mais c'est moi et mes étudiantes qui ont rédigé cet article. Il y a un deuxième article aussi écrit par Hannah Kuttner. Des textes dans les autres grottes qu'on n'a pas discutées encore ailleurs, d'autres endroits. Il y a aussi un article très très intéressant sur la vie familiale. Il y a table de matière à la fin, évidemment, qui va vous indiquer toutes sortes d'articles sur ce que j'ai présenté ce soir. Pas nécessairement femmes seulement, là, mais de ce que nous connaissons sur Qumran, les textes de Qumran, etc. Bien, écoutez, il y a plusieurs œuvres qui ont été rédigées et présentées pour vulgariser, pour populariser. Ces textes, Frank Moorcroft, M. Millick, ont écrit des œuvres, ça remonte aux années 50. Jim Vandercam, c'est un texte de base excellent. Introduction au manuscrit de la Mer Morte, c'est son titre. Et avec M. Peter Flint, ces deux hommes ont écrit une autre introduction qui est beaucoup plus au texte qu'au contexte. Mais ce sont des textes de base fort bien connus et tout à fait fiables. James Vanderkamp. Introduction to the Dead Sea Scrolls. Introduction au manuscrit de la Mer Morte. Vous estimez que c'est peut-être le tremplin, le bon point de départ? Oui, absolument. Une autre question, s'il vous plaît. Et micro, si vous voulez bien. Combien d'âmes comptaient les Esséniens? Et la communauté a duré pendant combien de temps comme secte? Vous pensez à Qumran peut-être. Qumran, on ne peut pas vraiment les appeler les Esséniens si on pense aux autres villes, villages et hameaux. Il y avait aussi des Esséniens intermêlés. Mais le site à Qumran, au plan archéologique, si on essaye de reconstituer la chose, bien. Premièrement, fixons ça dans le temps, 100 avant notre ère commune, disons 100. Certains chercheurs disent 150 à 100, mais plutôt vers 100 maintenant, il semble. Et les gens ont demeuré là jusqu'à... Et bah, écoutez, il y a eu un séismisme, il y a eu un tremblement de terre. Et ça, c'est au moment de la rébellion romaine en 68, 69. Et on sait, lorsqu'il y a eu l'emprise de Jérusalem, on a passé par Qumran. On voulait voir si on pouvait traverser la mer Morte. Mais en tout cas, c'est à peu près ça, cette époque. Jusqu'à la rébellion contre Rome, on ne sait pas exactement, mais quelle était la taille de la communauté? Combien de personnes? C'est très difficile vraiment à déterminer avec précision. Certains chercheurs estiment qu'il y avait peut-être 100, 120. Ben, où dormaient-ils? Il y avait peut-être un deuxième étage à ce bâtiment. Certains autres archéologues israéliens, pour la plupart, nous disent qu'ils dormaient dans les grottes. C'était une pratique tout à fait courante à l'époque, d'ailleurs. Hauptmann Stegemann, que j'ai mentionné plus tôt, proposait un nombre beaucoup plus restreint, beaucoup plus modeste, une cinquantaine peut-être dans cette communauté. Et comment a-t-il arrivé à cela? Ben, lui, il pense que lorsque ces gens priaient, ils s'étendaient par terre, comme les musulmans le font. Et ils le faisaient dans leur réfectoire, probablement. Alors, il a rassemblé toute son équipe, il était chercher des bédouines et tout cela, puis il voulait voir combien de personnes pouvaient s'allonger à plat ventre dans leur réfectoire. Puis c'était une cinquantaine, alors. Et il propose une cinquantaine. Bon, il nous reste tout simplement à remercier chaleureusement notre conférencière Aline Schuller pour une excellente soirée et merci bien de votre participation, messieurs, dames. Merci beaucoup.